Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle rencontre dessinée organisée par la BPI en partenariat avec le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et ce soir, on reçoit Ludovic de Boerm. Et avant d'entrer dans le vif du sujet qui est un peu la création directe, même si évidemment Ludovic ne va pas travailler ce soir comme il travaille dans son atelier, on va essayer quand même de s'approcher du geste. Je voudrais qu'on revienne avec toi, Ludovic, sur ton parcours. Et d'abord, en fait, sur tes tout débuts, en fait, en tant qu'illustrateur, dans une veine assez différente de celle qu'on te connaît aujourd'hui, pas tellement dans l'intention et l'univers, mais plutôt dans le traitement, avec des illustrations pour la jeunesse, notamment chez Nathan, qui étaient presque des peintures, en fait, qui n'étaient donc pas du tout du dessin en trait, en tout cas.
Ouais, d'ailleurs, je peux montrer quelque chose. Parce
que, oui, très bien.
J'avais apporté. C'est là où mon côté amateur entre en scène. J'avais amené par hasard, du coup, une image que j'ai faite pour les éditions Panama, pour un livre de Claudine Desmarteaux qui s'appelle Truiland. Donc, c'est la peinture à l'huile.
Bon. Avec un reflet.
Comme, bon. Enfin, ça vous donne une petite idée.
Je sais pas. Bah, tu peux peut-être commenter, parce qu'on ne voit pas très bien le dessin et peut-être la texture, la matière, comment tu travailles ce genre d'image?
C'est la peinture à l'huile. Je pense que ce qui est peut-être intéressant de dire par rapport à ça, c'est mon rapport à la commande, en fait. Pendant une dizaine d'années, j'ai d'abord travaillé en tant qu'illustrateur pour la presse et l'édition. Et avant même de faire de la bande dessinée, c'est-à-dire que je faisais déjà de la bande dessinée plus jeune, et puis j'ai arrêté pour professionnellement faire de l'édition. Et il y a toujours dans ce rapport, avec le fait que quelqu'un vous appelle et vous demande de faire quelque chose, une nécessité de se placer avec le désir de l'autre, en fait. Et moi, je crois que j'ai particulièrement eu du mal avec ça. Enfin, c'était pas très naturel pour moi. Et là, c'est un exemple. J'ai amené cette image, parce que c'est une image dont j'étais assez content. Et j'avais rencontré l'auteur, on avait discuté au préalable, je lui ai montré l'image. Enfin, il y avait un truc comme ça de rencontre avec l'auteur, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je pense que pour moi, faire de la bande dessinée, c'était vraiment le moment de travailler hors commande, enfin d'avoir cette espèce de nouvelle liberté. Non pas qu'on ne puisse pas trouver dans l'illustration une certaine liberté, mais c'est vrai que je pense que c'est un obstacle, et il faut faire avec cet obstacle, et c'est aussi l'enjeu et l'intérêt, quoi.
Alors, qu'est-ce qui était censé illustrer justement ce dessin? Quel était le thème du livre? C'est intéressant d'aller à l'envers, du coup.
Truiland, c'est une petite fille, une préadolescente qui va à la recherche de ses peurs, en fait. Et c'est une espèce de glissement comme ça. Je pense que le thème parlait parce que c'est une sorte de glissement du réel à l'imaginaire. Et donc, il y avait cette idée comme ça de flottement. Enfin, la scène de l'eau et de l'entre-deux comme ça sur la mer, voilà, c'était un moment assez emblématique.
Ça nous conduit un peu à un de tes sujets de prédilection, si on peut appeler ça un sujet, pardon, c'est-à-dire la psychanalyse. Est-ce que on peut dire que pour toi, c'est une manière de trouver des portes d'accès pour ton inspiration et de chercher dans ton monde intérieur des choses que peut-être tu ne peux pas exprimer dans le monde réel, on va dire?
Mais c'est assez ambigu, en fait, la psychanalyse, parce que, enfin, ce rapport à la psychanalyse, parce que d'un côté, dessiner, c'est effectivement aller chercher des choses qui sont, on va dire,
pour dire simplement
des choses cachées, ou en tout cas mettre à jour des choses. Et le travail psychanalytique est assez comparable. Mais en même temps, moi, j'ai un intérêt pour la psychanalyse aussi d'un point de vue systémique. Ce qui m'intéresse aussi dans la psychanalyse, c'est l'objet de la psychanalyse. Et en soi, c'est presque comme démonter le mécanisme artistique. Enfin, il y a un truc qui colle pas, en fait, dans cette position. Et donc, je me suis toujours trouvé un petit peu entre deux par rapport à ça.
Oui, parce qu'il y a une espèce de lieu commun qui dit qu'on ne peut plus être un artiste si on est psychanalysé. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si ça repose sur quelque chose de réel.
Mais... Non, je pense que c'est un mythe. Après, il y a des artistes qui se sont appuyés là-dessus. David Lynch dit assez régulièrement qu'un jour, il allait voir un psychanalyste en lui demandant s'il commençait une psychanalyse, est-ce que ça changerait quelque chose pour son travail. Et le psychanalyste lui a dit oui, ça changerait des choses. Il a dit bon, ok, je fais pas de thérapie. Je pense que Gondry, par exemple, a la même approche. C'est des gens qui travaillent justement énormément sur le retour du refoulé, l'idée vraiment d'émergence comme ça, de choses invisibles. Et je pense que c'est juste dommage parce que je pense que la psychanalyse, bon, je suis pas là vraiment pour prôner la psychanalyse, mais en tout cas. Pour ma part, m'a davantage aidé à me libérer dans mon travail et justement avoir davantage accès à ces images cachées et avoir plus de liberté et pas du tout, contrairement aux idées reçues, à décortiquer, expliquer et défaire les mécanismes.
Ah justement, c'était une question que je me posais à propos de ton travail, c'est est-ce que tu es conscient de la portée de certains symboles au moment où tu dessines, ou bien est-ce qu'il y a deux Ludovic de Berme, l'un qui exprime effectivement quelque chose d'invisible ou de caché, et puis l'autre qui regarde le dessin et qui du coup se sert de la psychanalyse pour comprendre ce qu'il a fait.
Il n'y a pas très longtemps, j'étais au festival fantastique du film de Gérard May et Serge Tisseron donnait une conférence et disait avec raison que maintenant, la plupart des cinéastes avaient conscience d'une part symbolique de leur travail. C'est-à-dire qu'effectivement, on est à une époque où on a tous entendu parler du complexe d'Oedipe et de trois théories comme ça, psychanalytiques, et on arrive, je pense, à faire des connexions avec son propre travail. Maintenant, je pense que... Enfin, en tout cas pour ma part, c'est impossible au moment où je dessine d'avoir conscience et d'être dans ce rapport comme ça à l'auto-analyse. Et d'ailleurs plus ça va et moins ça m'intéresse et moins je peux le faire. C'est-à-dire que je pense qu'à une autre époque j'avais des grilles comme ça de lecture, même en regardant un film, c'est-à-dire qui arrivaient assez vite, et des grilles psychanalytiques. Et en fait, en passant à des choses plus instinctives, moins conscientisées, ça m'est devenu en fait carrément impossible. C'est comme si j'avais franchi un truc, je ne peux plus revenir en arrière. Mais c'est exactement ça. Je pense qu'il y a deux Ludovic de Berme quand je travaille. Il y a celui qui fait, et puis après celui qui regarde ce qu'il a fait. Et cet aller-retour, pour moi, est assez constructif. Parfois, je crois que c'est juste pour me rassurer, comme l'idée de me dire voilà, je viens de faire quelque chose qui avait du sens pour moi. J'ai déjà senti intimement que ça avait du sens sans savoir pourquoi, mais le fait ensuite de le comprendre, même si cette compréhension en général est bien au-dessous de ce que je ressens, me permet de valider, de me rassurer. Mais je crois que ça s'arrête là en fait.
Tu as cité le nom de David Lynch, il était parmi les noms que j'ai inscrits sur mon carnet. Il y a aussi un petit peu dans les gens qui sont de ta famille, même au sens très large, on peut penser à Charles Burns, qui explore l'organique aussi d'une manière parfois proche de la tienne. Et puis, pas du tout dans le domaine de la bande dessinée, encore que, mais plutôt de l'illustration. Des gens, c'était marqué d'ailleurs, je crois que c'est ta fiche Wikipédia en fait qui précise ça. Edward Gorey, un Américain qu'on connaît pas forcément bien en France en fait, connaît mieux. On connaît mieux d'autres dessinateurs américains comme Sims ou des gens comme ça, mais pas tellement lui. Mais tu peux en parler peut-être. Illustré Beckett notamment.
Juste pour préciser que j'ai un jour pour mes agents à l'époque fait une biographie, une fausse biographie.
Cette affiche Wikipédia, c'est ça ?
Et je ne sais pas comment cette fiche est retrouvée sur Internet. Et donc maintenant, il y a une espèce de mélange entre des vrais trucs, des faux trucs. Bref. En tout cas, par exemple, je n'ai jamais vraiment fait d'installation vidéo. Mais en même temps, bon, ça fait bien, donc c'est pas grave.
C'en est une aujourd'hui, un petit peu.
Oui, voilà. Donc, ok, c'est bon. C'était... Maintenant, là, ouais. Ça va.
Donc, Corée.
Gorée, pour ce qui est de Gorée et Topor, en fait, c'est des références qui me vont très bien et je suis très honoré, mais il se trouve que je pense, j'ai bizarrement, à part Téléchat, découvert Topor assez tard.
Tu n'as pas vu Marquis, par exemple ?
Il y a plein de choses que je n'ai pas vues. Ouais. Et, enfin, que j'ai vu depuis, quoi, mais j'ai découvert vraiment bien après. Et notamment, je pense qu'on parle de Topor à la fois pour ce rapport au collage, en fait, enfin, au fait d'assembler des images et qui donne un nouveau sens, mais aussi parce que, à partir du moment où on travaille en trame, enfin, en hachure, on appartient d'un seul coup à une famille, de la même manière que ceux qui travaillent avec la ligne claire appartiennent aussi à une famille d'emblée. Mais bizarrement, je pense que j'ai été peut-être plus influencé. Par exemple, Maurice Sendak, un illustrateur, ou Brad Holland, qui est un illustrateur, grand illustrateur américain, qui n'est pas très connu en France, et qui lui-même, en fait, a été influencé, je pense, par Topor. Donc, on découvre après les vraies origines.
Bon, en tout cas, on va corriger la fiche Wikipédia en sortant tout de suite. Hein. Est-ce qu'on peut dire que ton travail aussi, puisqu'il est un vrai travail sur tes obsessions, et autobiographique, même s'il n'est pas autobiographique au sens linéaire, aujourd'hui j'ai fait ça, etc. C'est-à-dire une autobiographie plus psychique, finalement.
Mais je trouve que c'est très difficile, l'autobiographie, même si j'ai commis un livre autobiographique. Je pense qu'arriver à prendre cette liberté... d'abord, il y a un problème avec la représentation de soi et des autres, et prendre la liberté graphique quand on a en tête des images visuelles de scènes passées, de scènes vécues, c'est assez redoutable. Enfin, je pense que ça demande une grande maturité. Et du coup, à un moment donné, je me suis rendu compte que pouvoir travailler à la fois dans un cadre fictionnel, y mettre qu'on veut d'autobiographie, de moments passés et vécus, et à la fois des choses qu'on a vues chez les autres et des choses inventées. Enfin, finalement, faire sa cuisine, c'est quand même une manière très libre. Alors, après, je pense qu'il y a deux choses. Il y a des références à des scènes vraiment vécues qui m'ont marqué, que je glisse, mais je pense que tous les auteurs travaillent un peu comme ça. Et puis, des choses qui sont vraiment de l'ordre du fantasme et forcément... Tout ce que je dessine est très proche de moi, donc forcément c'est autobiographique, mais je m'inquiète plus tellement avec cette idée.
Mmh. Il y a une question technique, en fait, avant qu'on rentre dans la rencontre dessinée au sens propre. Tu utilisais donc une technique picturale, enfin en couleur directe, comme on dit, pour tes illustrations et pour tes bandes dessinées. Jusqu'ici, à ma connaissance, à moins que je me trompe, tu n'as pas du tout recours à cette technique, mais uniquement au dessin au trait. Est-ce qu'il y a une démarche derrière volontaire ? C'est-à-dire qu'il y a certains auteurs qui pensent, peut-être à juste titre d'ailleurs, que la couleur directe nuit à la narration, qu'elle est une espèce de quelque chose qui accroche trop l'œil pour que la lecture puisse se faire vraiment. C'est quelque chose que tu partages ou pas ?
Je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle. Quand j'ai commencé à faire de l'illustration, j'avais donc, je sais pas, 23 ans, un truc comme ça, et j'en ai maintenant 36. Quand j'ai commencé l'illustration, un auteur de bande dessinée, scénariste, Frédéric Vidal, m'avait écrit un scénario que j'avais commencé à dessiner. À l'époque, j'étais vraiment illustrateur, donc j'avais arrêté de penser la bande dessinée justement avec ce côté graphique. J'étais vraiment dans l'illustration, dans la peinture. Et j'avais fait, je sais pas, peut-être 7-8 planches comme ça, en couleur directe, à l'acrylique, sur des grands formats. Et ça avait été une expérience à la fois très instructive mais assez pénible, parce que je passais un temps fou sur chaque case, mais je me retrouvais en fait totalement frustré à chaque image, parce que c'était pas, il n'y avait pas ce côté fini de l'illustration abouti. Et de fait, je pense que la bande dessinée, mais bon, c'est quelque chose maintenant qu'on connaît bien, a nécessité de garder une part d'infini, de non-fini à chaque case, pour donner envie peut-être d'aller à la case suivante. Et je pense que enterrer des dessins, les terminer, c'est un peu tuer le rythme de la bande dessinée. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment le rapport à la couleur le problème. Je pense qu'on peut avoir ce même effet de dessin abouti avec le trait, avec le noir et blanc. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, le fait, je me posais beaucoup de problèmes liés à la représentation, liés au fait de travailler l'idée d'illusion, en fait. Est-ce qu'on peut encore actuellement croire en cette illusion? Tout le monde sait bien qu'une peinture, c'est une peinture, etc. Enfin, ce rapport entre deux dimensions, trois dimensions. Et d'un seul coup, de passer au dessin, en noir et blanc, qui est directement en fait une illusion, mais en même temps en deux dimensions. Enfin, le trait existe pour lui-même.
C'est plus proche de l'écriture, quoi.
Il y a aussi ce rapport à l'écriture, mais enfin, d'un seul coup, ça résolvait énormément de problèmes que j'avais, quoi. Cela dit, maintenant, notamment dans un de mes derniers livres, Le Grand Autre, le dernier paru aux éditions Cornelius, je travaillais sur ce rapport à l'illustration et de pouvoir laisser à des moments des images. D'ailleurs, je peux peut-être montrer des choses, en fait. Ouais. Là, c'est presque une page de titre, mais donc ce qui expliquerait le titre et puis l'image très posée. Mais par exemple, ici, c'est vraiment une image dans le récit. En même temps, c'est une image importante vers la fin du livre qui m'autorise à faire une pause. Et je crois que la possibilité, au fur et à mesure, je découvre vraiment cette possibilité de jouer dans le rythme avec des images plus légères et plus dynamiques et des images qui arrêtent le regard. Et je crois que ça, c'est vraiment une grande force de la bande dessinée, d'avoir tout ce rapport au rythme qui est le rythme aussi du lecteur. Et on peut jouer avec ça. Je vais donner un autre exemple. Et ça, en l'occurrence, le fait d'avoir enlevé les cases m'a pas mal permis ce genre de truc. C'est qu'il y a ici une image qui pourrait être proche d'une illustration, en tout cas qui s'ouvre, qui arrête le regard. Et en dessous, j'ai une case plus narrative. Et j'avais beaucoup de problèmes avec ces cases plus narratives parce que si j'avais eu des cases, peut-être ça aurait été moins évident. Il y aurait eu cette case en bas aurait été beaucoup plus grande. J'aurais dû avoir beaucoup plus de détails, etc. Ça aurait été lourd et inintéressant parce que c'était une case vraiment qui demandait juste un coup d'œil pour aller après. Et donc là, j'ai la possibilité, en ouvrant comme ça avec quelques lignes, de passer à des choses plus détaillées, ensuite de revenir à des choses très simples. Et donc de passer en permanence de cases posées à ces cases nécessaires pour faire le lien dans la narration en bande dessinée.
Alors là, ce sont des pages du Grand Autre, qui est un album qui est paru, donc, comme tu l'as dit, chez Cornelius, qui faisait partie de la sélection officielle du dernier festival. Alors le Grand Autre, c'est un titre énigmatique a priori, et encore plus riche de sens par rapport à ce qu'on a déjà dit au début de la rencontre, puisque c'est aussi un terme lacanien, que tu peux peut-être expliquer mieux que moi d'ailleurs, je crois.
Sans chercher à expliquer vraiment le terme lacanien que je pense que j'expliquerai trop mal et ça serait trop long, mais voilà, typiquement quand j'ai donné le titre, en fait c'est venu assez rapidement parce que c'était dans les premières pages et qui étaient des pages comme en général je procède toujours comme ça, improvisées. Je commence une page, une case, et puis une première case me donne envie d'aller à la deuxième et ainsi de suite. Et j'avais mis ce titre, Le Grand Autre, mais sans savoir exactement pourquoi, sauf qu'effectivement, je savais le rapport que ça avait avec Lacan. Et c'est au fur et à mesure du récit que, d'un seul coup, ça s'est expliqué, en fait. Dans Le Grand Autre, il y a un rapport au désir, et je pense que mon livre Le Grand Autre parle notamment du désir. Mais c'est des choses que je ne cherche pas nécessairement à maîtriser, en fait. Et surtout pas, c'est surtout pas l'illustration, ou ça se voudrait pas l'illustration d'une théorie psychanalytique, même si du coup j'ai glissé plein de référents comme ça. Il y a l'objet petit a avec une espèce de jeu de mots, il y a plein de titres comme ça, ou la passe par exemple, ça sont des rapports à Lacan, mais je crois que c'est plus des balises pour moi, pour me rassurer, comme des choses qui appartiennent à un univers que je connais, qui c'est une façon de poser des pierres et aussi peut-être des espèces de pierres de la réalité, des choses existantes, de la même manière que avec Céphalus, en utilisant Pinocchio et en faisant un SM Pinocchio, c'est une façon de travailler avec un mythe collectif et de le détourner. On a déjà gagné du temps. Tout le monde a une idée de Pinocchio et c'est assez pratique aussi pour ancrer l'histoire, je pense, dans une forme de réalité. Et travailler sur les terminologies lacaniennes, c'est aussi une façon de faire avec ça.
Le livre parle aussi beaucoup du regard, d'abord parce que le personnage principal a une particularité, il regarde le monde un peu différemment. Enfin, d'ailleurs, on sait pas.
Oui, enfin, il louche et du coup, il a échangé ses yeux avec une créature et il se retrouve donc à loucher. Et il semblerait qu'il voit à l'intérieur de lui-même et du coup peut-être un peu au-delà des apparences, enfin quelque chose comme ça, d'assez ennuyeux finalement qui, plus qu'est un super pouvoir, devient un super problème.
Et il y a aussi un problème avec le regard que les gens portent sur lui, évidemment, puisque c'est une particularité physique qui lui vaut des... Alors là, tu parlais de... Juste sur le regard, j'enlève ce que je viens de dire. La bande dessinée, c'est, comme le cinéma d'ailleurs, c'est une manipulation visuelle. C'est donc aussi entraîner le lecteur à l'obliger à regarder certaines choses pour qu'il comprenne... le travail que tu as montré là, à part effectivement là où on a une séquence, tu nous as montré, parce que c'est plus commode pour la caméra, mais uniquement des choses où il n'y a pas vraiment de séquence au sens bande dessinée classique. Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu travailles en écriture automatique, toi, ou en dessin automatique? Là, on va peut-être rentrer dans la vraie rencontre dessinée. Comment ça se passe? Quel est ton mode opératoire?
Je crois que pour moi l'idée, ce que je crois comprendre en fait au fur et à mesure, c'est que toujours ce qui doit préexister, c'est un désir. Désir de, parfois de pas grand chose, c'est-à-dire qu'il faut que je vienne à la feuille avec une petite idée. Ça peut être par exemple un nez en forme de sexe ou un nez pendant par exemple. Voilà, ça, c'est une idée qui peut m'obséder.
Mais qui est assez récurrente, oui.
Ouais. Mm. Et d'ailleurs,
on a le droit de montrer. Oui, vas-y. Ouais. Si les enfants sont là, ils baisseront les yeux.
Une pochette.
Voilà. Donc là, on a des croquis quand même.
Bon, oui, mais j'ai pas de croquis. Non. J'ai juste ça pour montrer que j'ai pas de croquis.
Ça, c'est à peu près ce que j'ai entendu.
Ça
ouais.
Ouais. Enfin, bon. Donc voilà.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est ce qui me donne envie de dessiner. C'est-à-dire que j'ai cette image en tête et je ne sais pas encore vraiment comment elle va pouvoir s'inscrire. Là, c'est une planche de la suite de Lucille. C'est une dans les planches 31, voilà. Et par exemple, je dessine la première tête, je ne sais pas exactement où je vais, ou même d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Et souvent, quand je fais de la bande dessinée, j'ai souvent des mots qui viennent avec le dessin, ou qui parfois préexistent, mais en général viennent avec le dessin, une espèce de voix off comme ça dans ma tête, et j'essaye d'asseoir les deux comme ça. Et là, le nez pousse, bref. Et le récit se construit. Je pense que je serais incapable, a priori, je pense que j'aurais vraiment beaucoup de mal si j'avais pas juste cette petite envie avant de commencer. J'aurais beaucoup de mal à me mettre à dessiner quoi que ce soit. Et de la même manière, enfin à l'opposé, si j'avais des choses trop construites ou trop décrites, un texte ou je sais pas, un synopsis, une histoire trop fermée, je serais incapable de la même manière de continuer le dessin. Ça serait comme si c'était déjà fait. Par exemple, beaucoup d'auteurs travaillent avec un découpage, c'est-à-dire qu'ils imagine un scénario et ensuite le découpe en cases, sorte de croquis préalable de la bande dessinée. Et c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que j'ai juste l'impression de me faire chier en redessinant les trucs qui ont déjà été dessinés. Mais plus grave pour moi, en tout cas, je pense que chacun a vraiment sa façon de faire et fonctionner parce que je dis que j'improvise mes histoires, mais je pense que tout le monde à un moment donné improvise ses histoires. C'est pas parce qu'on fait un découpage qu'on n'a pas à un moment donné. C'est toujours de l'improvisation. C'est juste qu'on peut peut-être revenir plus facilement sur des choses, revoir des trucs. Mais ça m'arrive aussi d'enlever des pages, de remettre des pages. Donc finalement, c'est pas très différent. C'est juste que le découpage souvent se fait 6 mois, 1 an avant la réalisation de l'album lui-même. Parfois moins, mais il suffit même de 2 mois. 2 mois, pour moi, dans ma vie, peut se passer des choses qui vont faire que ça ne va plus être d'actualité. Et ça, c'est le vrai problème que j'ai actuellement avec la bande dessinée. Quand je dis que c'est un problème, c'est que c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que même si au départ, je ne sais pas où je vais, il y a toujours un moment donné où on tire un fil et puis on commence à avoir des bribes, des bouts d'histoire, des choses qui se décantent et puis... Parfois, on peut même aller assez loin dans l'histoire sans l'avoir encore dessinée. Et moi, je me rends compte que j'aurais besoin non seulement de suivre mes émotions, mais vraiment au jour le jour, quoi, si je me réveille angoissé, s'il se passe des choses heureuses, ou ça, de pouvoir vraiment être très, très à l'écoute de ça, parce que, en fait, tout simplement, j'y arrive pas sinon. Et c'est pour ça que là, je suis arrivé à un moment donné. Donc, du coup, j'essaye de faire... de la liberté que j'ai en bande dessinée, de faire d'écrire mes histoires, de prévoir qu'elles soient ouvertes au maximum, de pouvoir tout changer à tout moment.
Créer des discontinuités, quoi, finalement.
Voilà, la suite de Lucille est assez... fonctionne comme ça, et en plus, ça a du sens pour moi, parce que je pense que parallèlement... plus mon travail avance et plus je cherche à créer cette espèce de flou entre la ligne du réel et de l'imaginaire. Et j'ai envie que cette zone soit de plus en plus ambiguë, qu'on discerne de moins en moins le moment de passage. Et en même temps, ça me va bien parce que ça me permet, moi, d'évoluer, de passer de l'un à l'autre suivant mon humeur. Maintenant, il ne reste pas moins que la bande dessinée, c'est quand même, on est dans un continuum narratif et on pense au lecteur, ce qui est une grande différence, je pense, avec une démarche d'un artiste contemporain qui peut penser à la présentation, etc. Mais je pense que là, on a vraiment un souci, et c'est aussi pour ça que c'est un art populaire, et c'est pour ça aussi, enfin, moi, c'est aussi ce qui m'intéresse, et de garder très fortement cette idée d'avoir quand même en tête le regard du lecteur. Et en même temps, j'essaye de pousser la limite pour pouvoir être toujours comme ça, dans cette espèce de liberté ultime, de pouvoir changer radicalement les choses. Je pourrais, par exemple, tout à fait faire des petites nouvelles... Qui 3-4 pages que je ferai par jour et qui se terminerait, et puis du coup le jour d'après je serai dans une autre humeur et je pourrais commencer un autre truc. Mais en même temps, et c'est mon paradoxe, c'est que j'ai aussi des désirs de grandes histoires, d'épopées, de faire entrer en fait le lecteur dans ma réalité, dans mon univers. Et je me rends bien compte que plus je donne de la place à cet univers, plus je peux immerger le lecteur. Donc je me retrouve dans une contradiction. C'est pour ça, par exemple, qu'en ce moment je fais vous montrer des dessins que je suis en train de faire en ce moment qui ne sont pas en soi de la bande dessinée et où justement chaque jour je peux faire l'image qui me correspond le plus. Je montrerai une autre.
Il y a quand même une idée qui est commune aux deux dessins, là, apparemment. Tu es en train de filer quand même quelque chose.
Ben, en fait, je pense que tout, j'ai fait jusqu'ici 10-12 dessins comme ça, et chaque dessin m'amène à un autre. Je ne pourrais pas faire celui-ci avant d'avoir fait celui d'avant, etc. Et finalement, je suis encore dans un... Il y a un rapport à la narration, mais ce n'est pas du tout ça qui m'anime. Il n'y a pas de volonté, de nécessité de garder...
C'est plus l'association d'idées, d'images, pardon.
Enfin, par exemple, j'ai commencé par, par cette tête, ce visage, et j'ai recommencé jusqu'à ce que je sois à peu près satisfait du visage. J'ai commencé à dessiner le corps. Au départ, il devait faire autre chose. Certainement, il devait tenir un objet ou quelque chose. Il était au travail, je ne sais pas. Et puis, petit à petit, il s'est mis à tenir quelque chose. Et ainsi de suite, en fait, un peu comme dans la bande dessinée, une case m'amène à une autre case. Et de la même manière, une partie du dessin m'amène à une autre partie du dessin et se construit au fur et à mesure. Mais j'ai vraiment besoin, en fait, pour valider chaque étape ou de me donner envie d'aller à la suivante, d'avoir une espèce de reconnaissance à un moment donné. Et j'attends toujours cette espèce de moment de basculement où... Je gomme beaucoup, en fait, et j'enlève beaucoup de dessins derrière chaque dessin. Il y a de nombreux autres qui sont pas forcément, on va dire, de mauvais dessins, mais qui juste sont pas suffisamment d'actualité ou pas suffisamment proches
de ce que tu ressens.
De ce que je ressens. Et d'ailleurs, je crois que la bande dessinée, je l'écris plus par ambiance, par atmosphère, que véritablement par envie d'histoire.
Mais alors, le fait que tes dessins soit présenté au public beaucoup plus tardivement dans le temps, ça crée forcément un décalage quand un livre sort entre ton état du moment et l'état de...
Oui, mais ça, je crois que c'est le problème de tous les auteurs qui doivent parler de leur livre un an après, quoi. Mais en même temps, comme je travaille un peu en flux tendu, pour reprendre un terme économique, et que mon éditeur est gentil, en général, le bouquin sort un mois ou deux mois après qu'il soit terminé, donc
c'est
pas trop... C'est des bêtises. Je montre deux pages.
Il y a aussi un rapport quand même. Aussi.
Voilà, ouais. Ça c'est des pages que j'ai fait. Il n'y a pas la date, mais il y a quand même 6 mois, 9 mois. Ça c'est de la bande dessinée. Et je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai mis ces espèces de verres. Enfin,
ou de parties d'estomac, on ne sait pas trop. Hein.
Voilà, exactement. Et ils reviennent plus ou moins là. Enfin, je pense qu'il y a des concordances. Ouais.
Justement, est-ce qu'on peut faire un petit presque un jeu, soit tu réagis en dessinant, soit tu réagis verbalement. J'ai noté quelques images que je vais pas te montrer du coup.
Ok.
Alors, il y avait le vert, oui, effectivement, ça c'est sûr, on peut peut-être en parler là puisque tu en parles. Le vert est assez souvent présent, il me semble. Beaucoup d'insectes aussi. Qu'est-ce qui t'évoque C'est vraiment l'altérité radicalement différente, les insectes. C'est ça qui te... Ou alors c'est carrément, si on rentre dans la symbolique, c'est assez facile, mais c'est pas très intéressant.
Je pense que vraiment le premier rapport, c'est une phobie. Comme beaucoup de gens, j'ai une phobie plus ou moins grande des insectes. Et en même temps, une certaine fascination, mais... D'ailleurs, il se trouve que j'avais amené un dessin qui va illustrer.
Il est pas là ?
Ouais, celui-là.
Ouais.
Voilà.
Oui. Oui, et puis il y a un jeu de mots en plus.
Et ça. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une planche du Grand Autre. Et j'avais quelques temps avant de la faire, je savais que j'allais arriver à un passage comme ça avec des insectes, et je cherchais un titre avec insectes. Alors j'avais Insectland, enfin je sais pas, ça c'était le titre que je m'étais prévu avant, je savais qu'il allait pas, mais voilà, c'était Insectland. Et puis ensuite j'ai commencé à le dessiner, et à un moment donné, comme ça, je me retrouve avec insectes et incestes, parce que je commençais à voir cette espèce de jeu de mots. Et là, on voyait marqué insecte, enfin bon, je vois qu'il y a... Et la manière dont ça s'est passé, c'est que j'étais en train de chercher un titre, et je regarde sur l'ordinateur, parfois comme ça, on tape dans Google, on met des mots, et puis on regarde ce qui sort, et parfois il y a des choses. Donc j'avais dû taper insecte. Et en regardant la page, je lis inceste. Et je dis, ah oui, bien sûr, inceste. En fait, il n'y avait pas marqué inceste, il y avait marqué insecte, mais moi, j'avais vu inceste. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'il y avait un sens entre les insectes et l'inceste. Et est arrivé un peu comme ça, tout seul, malgré lui, cette espèce de mot-valise insectieux, qui d'un seul coup a fait sens pour moi comme une espèce de révélation, comme si je... Ce sentiment qu'on a à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais on sent qu'il y a quelque chose vraiment derrière. Et ça a donc mélangé trois mots, insecte, inceste et infectieux. Et J'ai un rapport aussi à la phobie, aux infections, des phobies liées à la nourriture, etc. Donc, d'un seul coup, je ne vais pas faire une auto-analyse maintenant pour vous expliquer quel pourrait être mon rapport entre l'inceste et les insectes, mais en tout cas, de toute évidence, ma phobie des insectes pouvait avoir un rapport avec, avec l'inceste.
Alors, il y a aussi beaucoup de difformités, alors des coups allongés, beaucoup de métamorphoses aussi. C'est presque la même idée.
Pour les métamorphoses, c'est peut-être différent du cou allongé. Je pense que le cou allongé, ça a à voir avec peut-être l'idée, je ne sais pas, je ne crois pas l'avoir amené, avec l'idée de s'extraire de son corps, en fait. Je crois qu'il y a toujours eu une problématique entre...
L'intérieur et l'extérieur.
L'intérieur et l'extérieur, mais aussi le corps et la tête. Quoi. Et par exemple, dans l'Udologie, une bande dessinée autobiographique que j'avais faite il y a un certain temps, les personnages avaient plus des grosses têtes avec des petits corps. Et pendant un moment, j'ai dessiné comme ça. Je me suis toujours beaucoup posé de questions au sujet des proportions. Mais quand je dis beaucoup de questions, c'était vraiment obsessionnel. Quoi.
C'était à la fois technique et donc aussi symbolique.
Je pense qu'en dessin, toutes les questions passent par des problèmes techniques, alors qu'elles ne sont pas que techniques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles trouvent leur réponse dans la technique. Alors qu'en fait, à un moment donné, elles doivent passer par autre chose. Mais on est quand même dans le faire. Donc on ne peut pas juste résoudre des problèmes par l'esprit. Ça marche que parce que ça marche, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on a un beau discours, mais que le dessin ne fonctionne pas, c'est que le problème n'a pas vraiment été vécu et transfiguré. Et pour les proportions, je pense que... Après, j'ai compris qu'il y avait cette espèce, chez moi, de négation du corps, ce rapport donc au fait d'assumer mon corps ou d'assumer le corps. Et le corps, petit à petit, a pris plus d'espace. La tête, parfois, elle peut être assez ennuyeuse par rapport au corps. Enfin, d'un seul coup, pouvoir s'extraire comme ça de son corps, je crois que le cou allongé a à voir avec ça.
Alors là, il y a sous les yeux, j'ai un dessin qui rejoint deux idées, donc la métamorphose, qu'on évoquait pas vraiment, et puis les anges ou les hommes ailés, les oiseaux aussi. C'est une image qui est très fréquente aussi, sous ta plume.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai un rêve récurrent que je dois faire quasiment toutes les nuits, c'est je rêve que je vole, mais c'est pas toujours... C'est pas toujours un rêve de super-héros, parfois, mais c'est aussi. Parfois, j'arrive pas à voler. Enfin, donc, je pense qu'il y a vraiment un truc.
Est-ce que tu contrôles ton vol? Parce que tu sais que c'est comme ça qu'on peut contrôler ses rêves. Hein.
Vas-y, explique-moi, raconte-moi, ça m'intéresse.
Je crois que c'est. À partir du moment où tu sais où tu veux voler, tu peux contrôler ton rêve, en fait. Je sais pas si tu pratiques des techniques de contrôle de rêve, mais. C'est une des façons de se rendre compte qu'on peut contrôler.
D'accord. Mais je pense que c'est quand on a vraiment un surmoi très développé qu'on a carrément besoin de contrôler ses rêves. Mais effectivement, moi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, petit, je savais me réveiller de mes rêves quand j'avais peur. Enfin, j'avais une technique, je me mettais en boule, etc. Mmh. Je raconte ça dans un livre. Non, justement, j'arrive pas trop à contrôler mon vol. C'est ça, tout le truc, il est là, quoi. J'ai entendu dire que c'était assez sexuel le vol dans les rêves, mais je sais pas.
Tout est sexuel de toute façon. Ouais. Le cordon ombilical aussi. Je sais pas s'il y a un dessin.
Mais ça. Même ça.
Hein. Ouais, ou ça, oui ça. C'est pas tout à fait.
Ma carte de visite.
Ah oui. C'est intéressant.
C'est un peu petite.
C'est très dérangeant, en fait, tout ça aussi, quand même. Ça ne met pas très à l'aise.
Je ne crois pas que ce soit le but, en
non,
tout cas.
Non, j'ai bien compris, oui.
J'ai pas, en tout cas, très sincèrement, pas du tout le but de choquer. Puis dans ce cas-là, je pourrais faire des images beaucoup plus trash. Mais je pense, comme on a parfois parlé, en parlant des dessins, d'inquiétante étrangeté. Je pense que c'était une référence à Freud qui a écrit un article qui s'appelle, la traduction allemande. de Unheimlich, mais qui est intraduisible et qui donne inquiétante étrangeté. Et c'est vraiment l'idée de l'étrange qui surgit dans le réel et qui peut donner cette espèce d'impression de malaise, en fait. Le moment où, justement, ce qu'on pense contrôler sort du contrôle. En tout cas, pour ce qui est pareil, pour l'histoire du cordon ombilical ou de la naissance, comme ça, il y a souvent dans mon travail un rapport à la mort, au suicide. Et je pense que la plupart du temps, c'est plus des suicides symboliques, plus vraiment l'idée de mort comme l'idée de vraiment de renoncer à des choses pour pouvoir renaître. Et je crois que c'est vraiment, dans le dessin, c'est quelque chose d'extrêmement pénible qu'on vit tous les jours à chaque dessin. C'est renoncer à un dessin pour pouvoir en faire un autre. Et je pense qu'il y a des choses plus difficiles à faire que de gommer un dessin, mais à un certain moment, ça peut devenir vraiment très, très dur dans le travail d'avoir la sensation qu'on a commencé, on arrive à quelque chose, mais qu'on peut aller plus loin, il faut renoncer, gommer son dessin pour avancer. De manière plus générale, je pense que je ne suis pas la personne la plus habile pour renoncer aux choses en général dans la vie. Et l'idée de devoir me séparer, l'idée de devoir faire des deuils, c'est quelque chose une thématique récurrente chez moi. Et donc qui passe comme ça justement par faire mourir des personnages, c'est beaucoup plus facile à faire que dans la réalité, devoir renoncer.
Toujours par rapport à l'organique, les siamois, les bicéphales. Non, peut-être là tu pourrais dessiner, ce serait peut-être bien.
Je peux dessiner, ouais.
T'es pas obligé de parler pendant que tu dessines, on va te regarder religieusement. Ou si tu veux parler, tu parles, évidemment.
Et est-ce que tu as d'autres mots que celui-là, justement
pour plus facile dessine.
Non, c'est pas.
Souvent tu dessines des falaises au-dessus de la mer aussi. J'ai remarqué ça.
Et encore un autre mot.
Un autre. Les costumes cravates.
Ok, c'est bien ça, costume cravate. J'avais des feuilles blanches quelque part. Attends. Ah, je suis assez bordélique.
Celle-là, c'est peut-être moins, elle est peut-être mieux pour l'écran d'ailleurs.
On essaye ça ?
Ouais.
Ok. Et si je fais un dessin qui n'a rien à voir avec les mots ?
Bah, ce sera ton inconscient qui parle.
Non, juste pour répondre, c'était quoi le premier mot ? C'était bicéphale.
Ouais. Falaise au-dessus de la mer et costume cravate.
En deux mots, la petite histoire par rapport au personnage bicéphale, bicéphale, ça se dit pas, je non. Pense pas. j'avais fait pour Comics 2000 à l'association, j'avais fait une bande dessinée où un personnage se coupait des têtes et il se coupait une tête, il y en avait deux qui repoussaient, s'en coupaient deux, il y en avait quatre, enfin c'était l'enfer quoi. Je disais tout à l'heure, parfois on a envie de plus avoir de tête pour être plus dans son corps, là c'était exactement le contraire, il avait encore plus de têtes. Et de cette bande dessinée, un directeur artistique, Franck Serac, qui travaillait aux éditions Nathan à l'époque, m'avait appelé pour faire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et j'avais trouvé l'idée sympathique en ayant vu cette bande dessinée qui était assez trash. Il me propose de faire un livre pour la jeunesse. Et du coup, au fur et à mesure du livre, l'idée de montrer ce Dr. Jekyll et Mr. Hyde comme un personnage à deux têtes me semblait de plus en plus parlante et évidente, comme l'idée vraiment, remettant Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans son contexte à l'ère victorienne, avec cette espèce de pression immense, le début de la psychanalyse, etc., où on est comme ça dans le début de l'acceptation de l'autre, donc du monstre qui est en soi, on n'est plus vraiment dans la mise à l'extérieur. Mais il y a quand même cette idée vraiment d'une dichotomie où le personnage est divisé, il est obligé de se droguer, c'est lui, mais c'est pas tout à fait lui, etc. Et donc là, mettre les deux têtes l'une à côté de l'autre, presque identiques, c'était comme, en tout cas pour moi, pour moi-même, comme une sorte de reconnaissance de l'autre. Et c'est pour ça que dans Céphalus, ma première bande dessinée publiée, j'ai repris ce truc. Donc c'était pour illustrer le fait que parfois la commande, parce que c'était quand même une commande, j'aurais jamais, je pense, pensé à illustrer Dr. Jekyll et Mr. Hyde, m'a amené à un moment donné une image dont je me suis servi ensuite dans mes propres bandes dessinées. Bon, là je vais dessiner alors.
Non, tu dessines pas debout chez toi si.
Ça m'arrive, mais là je vais dessiner debout parce qu'en fait
c'est que Fred dessine toujours debout.
C'est vrai,
ouais.
Il est bien ce Fred. Donc moi, chez moi, je dessine pas debout. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que en ce moment, je dessine un peu lentement. Je vais essayer de dessiner un peu plus vite, mais je sais pas si ça va être très visuel. On va voir, quoi. C'est petit, hein. Sur mon dessin, c'est beaucoup plus grand.
Alors, quand tu dessines un élément comme ça, tu sais déjà ce que tu vas dessiner autour ou pas forcément ?
Non, j'ai plus ou moins pensé.
Commencer par la main, c'est pas forcément le plus évident.
Je commence rarement par la main. En général, je commence par un visage. Mais là, j'ai commencé par la main.
C'est ce que j'avais remarqué, donc je voulais te le signaler.
Donc, peut-être que ça va être vraiment pourri. Mais...
Tu écoutes de la musique quand tu dessines ou tu es dans le silence comme ça ?
Le problème que j'ai avec écouter de la musique en dessinant, c'est que je suis hyper influencé par ce que j'écoute. Et donc du coup, si j'écoute un truc un peu grandiloquent, je vais faire des dessins grandiloquents. Et quand j'arrête la musique, je me rends compte que c'est hyper pompeux. Donc, je trouve, par exemple, en général, j'écoute beaucoup de jazz manouche, mais ça marche pas avec mes dessins. Alors je peux pas écouter de jazz manouche. Et sinon, c'est hyper compliqué d'écouter la musique. Donc, faut que j'arrive à trouver. C'est très compliqué. En général, il faut que je change de musique suivant le dessin. Là, ce qu'on entend, c'est de la musique qui arrive ou c'est...
Oui, oui, oui.
Ah, c'est cool.
C'est concret. La musique concrète.
C'est une blague ?
Oui.
Ah merde. C'est un peu le genre de truc que je pourrais écouter pour dessiner, en fait. Et justement, le fait que...
Steve Reich ou des choses
voilà,
comme ça, ouais.
Voilà, Philip Glass ou Steve Reich ou...
Ou Brian Eno.
Non, j'écoute pas Brian
Eno.
Non. Vous voyez, c'est petit. Hein. Est-ce qu'on peut zoomer un peu ? Ah, si je fais ça,
ouais, ça va...
c'est pas une bonne idée ?
Non.
Non, ok. D'accord. Vous voyez un peu quand même ce qui se passe ? Ça va.
Mais où veux-tu en venir ? Quel suspense !
Je ménage mes effets.
Juste pour l'anecdote, Winsor McCay, tu sais, faisait des dessins minutes dans des spectacles. Et le but, c'était justement de créer une surprise comme ça.
J'ai déjà dépassé la minute largement.
Bah oui. C'est long, hein ? Non.
Vous avez dit, je dessine un peu lentement.
Non, ça, c'est pas vrai, ça.
Là, si tu veux, je peux lui mettre une cravate, comme ça fera raccord. Oui. Avec.
Au moins, il y aura une chose. Donc, il n'y a pas de mise en place. Enfin, c'est un dessin spontané. Tu fais pas d'esquisse d'abord, tu pars comme ça, toujours.
En fait, quand je dessine au crayon, de la dessin que je vous ai montré au crayon, forcément, comme on voit tout, je fais pas vraiment de crayonné, mais en même temps, je peux quand même gommer. Donc c'est pas tout à fait comme là, je peux pas gommer parce que c'est un crayon qui se gomme pas, puis ce serait pas très visuel. Mais le fait de ou non gommer, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, je pense que des choses très techniques ont des impacts beaucoup plus essentiels. Et pour moi, ça a été vraiment une question à un moment donné de travailler sans crayonner. Les premiers albums, je les ai réalisés comme ça. Vous voyez, je n'arrive pas à parler en même temps que je dessine.
Oui, j'arrête de te parler, pardon.
Non, mais et du coup, de ne pas crayonner, de juste laisser les accidents du dessin apparent, etc. C'était une volonté à un moment donné, mais c'était comme l'idée opposée de celle de gommer, de pouvoir chercher plus loin derrière les couches, en fait, j'ai l'impression de dépelliculer quelque chose ou d'éplucher un fruit ou je sais pas, ou des couches successives pour aller au cœur du truc. Et ça, c'est possible dans le crayonné et ça l'est beaucoup moins en fait dans le dessin automatique. Voilà. Donc là, c'est pas tout à fait comme je fais à la maison. Tu veux me poser une question?
Oui, tu savais déjà ce que tu allais faire quand tu as commencé ou pas du tout?
En fait, j'ai fait il y a quelques jours un dessin on voyait une femme sur la gauche et au milieu juste une tête d'homme barbu. Juste la tête qui flottait. Et j'étais incapable de mettre quelque chose à droite. Et pourtant, je savais qu'il fallait mettre quelque chose à droite. Et j'ai dû faire, mais vraiment, je ne sais pas, 50 dessins à droite et en n'arrivant absolument à rien mettre. Et à un moment donné, il y a ce dessin-là que j'ai commencé à faire, juste la tête. Et j'ai dû le gommer. Voilà. Donc là, en fait, je le refais.
C'est une question un peu naïve, mais... La façon, c'est assez énigmatique quand on regarde quelqu'un dessiner de savoir ce que lui il voit sur la feuille en fait.
Et surtout que là, je pense qu'on voit rien quoi avec des camps.
Un peu dans la salle mieux que nous.
Ouais. Là, je l'ai peut-être pas très bien dessiné, mais on dirait un peu une masse de cheveux sur mon dessin. Je pense que ça se voit un petit peu mieux sur le dessin.
Il regarde sa perruque, c'est ça, non?
Non. Quel poète.
Ouais. Je peux parler des cheveux, j'aurais pu aussi.
Quoi, qu'est-ce que tu veux dire?
Non, rien.
C'est désobligeant comme.
Oui, très.
Là, je fais un peu du remplissage, je crois que je peux répondre à des questions en même temps.
Non, mais je pense qu'on va passer aux questions de la salle, en fait, parce que okay. On s'est pas rendu compte, mais on a parlé très longtemps. J'espère que c'était pas trop long, même si c'était long dans le temps.
Est-ce que vous avez des questions?
Il y a des micros, hein, si vous avez des questions.
Pour vous mettre à l'aise, moi, je tiens à dire que quand je vais écouter des gens parler, je ne pose jamais de questions, parce que je trouve ça absolument super dur, hyper flippant. Mais là, lâchez-vous. Hein.
Ça donne très envie. Manifestement, pas du tout, donc. J'ai d'autres questions, hein, sinon, mais...
Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a une question et qui est comme moi.
Ah, le monsieur au premier rang.
Dis-moi, je voudrais savoir ce qui tient dans les mains, ton dessin.
Alors, je disais, a priori, quand on voit le dessin de près, on comprend un peu plus qu'il s'agit d'une espèce de masse de cheveux ou de poils. Mais ça pourrait être aussi l'arrière d'une tête, je ne sais pas.
C'est une question qui tue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? c'est trop direct comme interprétation, vous ne croyez pas, non?
Cela dit, je ne sais pas. Non, nous vivons dans une époque formidable où les gens qui perdent leurs cheveux peuvent se les raser et ne pas passer pour des skins. Donc, non, ça va.
D'ailleurs, ton éditeur que j'aperçois a adopté la même coupe que toi.
Je crois que ça ne lui ferait pas plaisir parce qu'il est persuadé que c'est moi qui ai adopté la même coupe que lui.
Pardon, désolé.
Historiquement, effectivement, je crois qu'il avait déjà fait ça avant moi, mais il est plus âgé, c'est pour ça.
Non, pas plus de questions, en fait.
Je termine mon dessin et puis c'est fini.
Vraiment? Il n'y a pas de lecteurs ou de lectrices qui ont des questions sur un livre, sur Lucille, sur Céphalus ou...
C'est bien.
Bon.
C'est parce que je suis un mec vachement impressionnant.
Alors, je donne d'autres mots-clés peut-être. Les mannequins, les jouets, les poupées. Les mannequins, je pensais au Big Jim en fait. Pas les mannequins.
Au quoi?
Big Jim.
Big Jim, ouais. Toi, t'as pas joué au Big Jim visiblement.
Si, j'en avais un qui changeait de tête justement. Moi.
Ah ouais.
Ouais. Tiens, tu bougeais le bras comme ça, il changeait de tête.
Qu'est-ce que je peux dire sur les Big Jim, si ce n'est le fait que j'en ai cassé beaucoup et que ma mère ne voulait pas me les racheter, ce que je peux comprendre. Oui, c'est vrai. ben voilà, par exemple, j'ai souvent dessiné des personnages qui en tenaient d'autres, et souvent c'était des sortes de mannequins. De Big Jim, un peu agrandi. En fait, j'aurais peut-être des choses à dire là-dessus, mais typiquement, je crois que ça serait vraiment exactement le genre de choses que...
Personnel.
Non, c'est pas que ça serait trop personnel, c'est que je deviendrais vraiment très analysant, enfin très...
D'accord, non. Tu ne vas pas t'allonger tout de suite, non. Ce qui est intéressant, c'est que tu as absolument rien retenu des mots que je t'avais donnés. En fait, ça, c'est très intéressant. Ça parle beaucoup.
Si, il y a cravate.
Il y a la cravate. Ouais.
Falaise, c'est un peu colline. Mais pour la falaise,
c'est une idée du suicide, la falaise aussi, ou pas?
Je crois que la première raison.
C'est juste graphique parce que c'est très.
Non, je pense que c'est parce que je. J'ai passé une grande partie de mon enfance au bord des falaises et que je rêve aussi, en plus de voler, que je saute par-dessus la falaise à peu près toutes les semaines et que j'essaye de gagner. En fait, c'est la Manche, de l'autre côté il y a l'Angleterre et j'arrive jamais à gagner l'Angleterre. Donc voilà.
Tout à l'heure, alors, je vais poser une question. Tout à l'heure, je disais que, en aparté, que le dessin que tu venais de poser sur la table était dérangeant. Est-ce que, on dit souvent que beaucoup de romans, beaucoup de livres ont été écrits pour séduire les femmes, bien sûr. Est-ce que toi, tu as déjà fait un livre ou tu aimerais faire un livre pour séduire ?
Je pense que la question de la séduction, elle m'est apparue plus évidente en lisant l'article d'un journaliste qui était journaliste aux Inrecuptibles, Joseph Gosn, qui disait quelque chose comme, en parlant du grand autre, que mes dessins avaient quelque chose d'immédiatement séduisant, enfin de prime abord, et qui montrait une inquiétude par derrière, quoi. Et je me suis rendu compte, enfin, en fait, je savais déjà que j'avais un certain rapport comme ça avec la séduction. Après, je pense que c'est un peu un truc d'artiste aussi, d'avoir une raison pour laquelle, à un moment donné, on dessine ou on s'expose. C'est aussi, je pense, pour séduire. Mais que faire de cette séduction ? Parce qu'elle est finalement assez vaine et assez creuse. Et je crois que c'est quelque chose qui peut être assez ennuyeux, en fait, qui peut être vraiment problématique. Donc, où j'assume avoir un certain rapport comme ça de séduction dans la ligne, peut-être quelque chose d'épuré, quelque chose d'esthétique qui malgré moi, ressort. Et en même temps, j'aime bien cette idée, un peu comme une espèce de rose où il y a une partie fleur et la partie épineuse. Et la partie fleur sert à saisir la rose et se piquer avec. J'aime bien que dans les dessins, en tout cas, ce que j'aime en dessin, je parle pas de mes dessins, je parle de dessins, enfin en art en général, il y a toujours ces deux choses, quoi. Mais je n'ai jamais réussi, en tout cas, à aller jusqu'au bout du truc et, en tout cas, peut-être quitter cette partie séduisante tout à fait. Alors, il y a des gens qui verront pas du tout la partie séduisante dans mon travail, mais moi je la vois.
Alors, en fait, là, j'avais pas vu, mais il y a une poupée en fait ici. Là, il y a une vraie séquence en plus.
Alors. C'est drôle que tu dises une séquence parce que j'avais amené ça justement.
Parce que c'est discontinu complètement. Alors, c'est une fausse séquence alors, c'est ça ?
Je vais la mettre en parallèle avec, par exemple, une séquence des séquences de Lucille que je suis en train de dessiner.
Oui, avec une vraie succession du temps. Alors, c'est
voilà,
pas le cas dans l'autre, ouais, d'accord.
Ou là, par exemple, donc là, c'est des planches. Mais là, en fait, c'est juste des. Qu'on appelle ça des culs de lampe. Enfin, il y a un autre nom, des. Bref, c'est des petites images qu'on met au début des chapitres, comme un peu des entêtes de chapitres, pour un livre que j'ai fait avec Anna Rosen, qui va être publié au Dilettante bientôt. Et donc, c'est pas la bande dessinée, c'est juste des petites images de chapitres. Mais c'est vrai que du coup, je les ai mises dans la page un peu malgré moi, comme ça, comme une espèce de succession de trucs.
Ça aussi,
c'est ouais, ça en fait partie. Je ne sais pas s'il y a des enfants. Non, je crois qu'il y avait des enfants, mais ils sont un peu petits, hein, ça va. Voilà, ça, c'est la même chose.
Il y a là, c'est des hybrides. C'est assez, c'est très plus classique, mais
dans le grand autre, il y a un passage avec des rats et je sais pas pour moi, mais enfin, en tout cas, souvent on m'a dit que c'était le passage le plus dérangeant. Enfin, en tout cas, des animaux qui étaient vraiment pénibles. Il y avait quelque chose de vraiment répugnant, quoi. Mais je pense qu'en même temps, ils sont. Enfin, moi, je les vois comme assez attachants en même temps. Et l'idée, c'était vraiment. J'aime bien cette idée qu'à la fois il y ait chez des créatures repoussantes quelque chose d'attachant. Et le grand autre, enfin ce petit garçon, enfin ça parle de ça, je pense.
Et voilà d'ailleurs.
Et voilà par exemple l'idée de, on parlait tout à l'heure de créer de la séquence autour d'une image centrale plus posée, plus illustrative. Et c'est vrai que. Je ne sais pas si avec des cases, je pourrais me permettre ce genre de choses, peut-être.
Dans les quatre coins de la feuille, quoi, en fait.
Ouais. Et ça tourne, et comme le personnage tourne lui-même, en même temps, je pense que ça fonctionne aussi comme ça. Il y a un rapport au mouvement, un mouvement circulaire.
Je sais pas. C'est ça.
Ou là, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de cases permet aussi enfin, on a l'impression que on peut voir l'image comme un tout, l'impression que tout flotte dans la même eau, alors que c'est deux cases, il y a le même personnage qui revient, c'est deux cases différentes.
Le point de vue a changé, oui, entre les deux dessins. Toujours pas de questions ? Ah, voilà.
Mais je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour arriver à être illustrateur ?
J'ai pas entendu la fin. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude pour être illustrateur ? J'ai pas du tout fait des études pour être illustrateur. J'ai fait une maîtrise à la fac à Saint-Charles, une annexe de la Sorbonne. Donc très orienté art contemporain et surtout à l'époque c'était ça rigolait pas quoi. Donc je faisais surtout pas de la bande dessinée ni de la peinture, enfin rien de figuratif et puis qui puisse ressembler de près ou de loin à de la peinture ou à du dessin. En même temps, moi ça m'a appris aussi à voir qu'il y avait d'autres formes artistiques et des manières d'aborder l'art par un plan plus conceptuel et il y avait quelques cours d'esthétique qui étaient hyper intéressants ou de psychanalyse de l'art, des choses comme ça qui étaient vraiment intéressantes et qui finalement je pense avec le recul m'ont plus apporté que si j'avais fait une école des arts appliqués ou quelque chose comme ça. Après avoir terminé assez laborieusement, ou même pas avoir terminé ma maîtrise, j'ai pris un an pour faire un book chez moi tout seul. En demandant quelques conseils de qu'est-ce qu'on peut mettre dans un book d'illustrateur et voilà comment ça a commencé et après je suis allé voir les éditeurs mais je pense que ça peut être bien de faire des écoles mais que c'est pas absolument nécessaire, faut pas que je dise des choses comme ça.
Une autre question apparemment, voilà il y a des questions tu vois.
Bonsoir. Moi, j'ai une question. En début de séance, vous avez dit que vous n'aviez, enfin, que dans l'illustration, vous aviez certaines contraintes que vous ne retrouviez pas en faisant de la BD. Est-ce que l'éditeur, lui, ne vous en impose pas de temps en temps ? Enfin, comment ça se passe en fait le rapport avec les maisons d'édition ? Parce que je vois que vous avez édité dans plusieurs maisons. Est-ce qu'il y a une contrainte à ce niveau-là ?
Voilà. Pour la bande dessinée ?
Oui.
Je ne peux pas généraliser parce que j'ai finalement jamais eu que deux ou trois éditeurs en bande dessinée. Et la façon dont justement, que ce soit Jean-Louis des éditions Cornelius ou Sébastien Gnédic chez Futuropolis, enfin, ce ne sont pas des gens qui fonctionnent je pense qu'ils sont un peu débarrassés de l'idée de faire un livre à votre place, quoi. Ce qui me semble être important. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Et surtout, c'est aussi des maisons d'édition qui accueillent un univers et un auteur. Le travail se passe plus à travers, avec Jean-Louis, passé énormément à travers des discussions avant, après, qui avaient d'ailleurs rien à voir avec le livre. Et je pense que quand on rentre dans une maison d'édition, on est imprégné à la fois de l'éditeur, enfin de la pensée de l'éditeur, mais aussi de l'ensemble du catalogue, enfin de l'ensemble des auteurs qui sont présents dans la maison d'édition. Enfin, c'est ça qui nourrit, et c'est plus davantage un guide, une nourriture, enfin quelque chose qui... c'est une sorte de... peu de famille, quoi. La contrainte qui existe dans la commande, qui est parfois une contrainte qui peut amener à se dépasser, à aller sur des sentiers qu'on n'aurait pas franchis tout seul, elle existe aussi dans la bande dessinée, mais c'est la contrainte du médium de la bande dessinée, puisqu'il existe des contraintes inhérentes à la bande dessinée. Et quand je parlais tout à l'heure de problèmes que je peux avoir en ce moment avec ce rapport à la continuité dans la narration, c'est vraiment de ces contraintes-là dont je parle, avec lesquelles on peut jouer. Moi, j'essaye de tirer au maximum à moi. Mais c'est aussi ses propres contraintes. Et moi, ce que ça m'a appris, en fait, à un moment donné, de faire plus que de la bande dessinée, c'est-à-dire de refuser les commandes et de travailler, en tout cas pendant un laps de temps assez long, juste sur la bande dessinée, de me lever tous les matins et de me dire, bon, là, maintenant, je fais de la bande dessinée, c'est de me retrouver justement face à ces contraintes qui étaient les miennes et à ces empêchements, le fait de ne pas y arriver, par exemple, le fait de sentir qu'on est contraint et que ça ne vient pas de quelque chose d'extérieur. Et à ce niveau-là, je pense que pour moi, l'illustration a été une sorte de masque. Je vivais les contraintes à l'extérieur plutôt que d'assumer mes propres contraintes. Donc j'ai eu l'impression à un moment donné, en commençant, enfin vraiment me mettant à faire de la bande dessinée sérieusement, à me dire là, enfin, je touche vraiment à ce rapport essentiel, la création artistique, qui est ce rapport, quoi, justement, à soi. Mais en tout cas, voilà, pour répondre à la question, jamais, en bande dessinée, on m'a posé de contraintes, quoi.
Alors, il y a une question qui est liée à celle qui vient d'être posée. C'est, est-ce que les livres que tu as faits auraient pu être publiés indistinctement chez l'un ou chez l'autre ? Je pense que l'éditeur qui est dans la salle aurait une réponse lui aussi. Enfin, l'un des éditeurs. Est-ce que tu aurais pu faire, par exemple, Le Grand Autre chez Futuropolis et Lucille chez Cornelius ? Je crois que non, tu n'aurais pas pu faire Lucille chez Cornelius, d'après ce que je crois savoir. Pas comme ça, en tout cas.
Pour Lucille, c'est une question plus compliquée. Parce que j'avais fait déjà 120 pages avant de rencontrer l'éditeur. Et la question s'est posée, à un moment donné, du choix de l'éditeur. Et... Donc, pour parler de ce que je sais, c'est pour les livres qui ont vraiment été commencés chez Cornelius, que ce soit Céphalus ou Ludologie ou Le Grand Autre. Je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une espèce d'imprégnation, d'influence, mais d'influence positive qui vient de l'univers, quoi, Il y a des choses, tout simplement, que j'ai découvertes au contact de Jean-Louis ou en lisant ses livres, des images qui m'ont marqué. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, quoi. Je pense qu'effectivement, les livres ne sont pas uniformes et il y a une rencontre avec un éditeur. Et c'est aussi ça qui fait cette nuance entre art contemporain, on va dire, et bande dessinée. On est vraiment déjà, l'éditeur est un peu le premier lecteur, et il y a déjà ce rapport comme ça à l'autre.
Un souci de la réception.
Il y a un souci là.
Ouais.
C'est cette ambiguïté qui m'intéresse, c'est-à-dire que d'un côté, je pense qu'une partie de moi a envie de tirer le dessin vers l'art contemporain, mais je ne dis pas ça parce que l'art contemporain me séduit, je dis ça parce que je peux parler d'une certaine liberté au quotidien dans le travail, une façon de penser le travail, et en même temps ce rapport au lecteur, ce rapport à l'histoire, à la narration étant quand même quelque chose d'éminemment proscrit dans l'art contemporain, même si les choses changent à ce niveau-là, fait que je me retrouve toujours un peu entre deux chaises, dans une position inconfortable, qui est la même que celle inhérente à la bande dessinée, de se retrouver entre le texte et l'image. Le texte et l'image tirant à un peu la couverture à eux-mêmes. On essaye de faire que ça fonctionne, et en même temps, il y a des frottements. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces frottements, en tout cas, et plus on crée de connexions, de renvois. Enfin, je pense qu'il y a plein de manières de faire que ça marche. Mais en tout cas, moi, le fait qu'au quotidien, je n'ai toujours pas trouvé de solution, et je pense qu'il n'y a pas de solution absolue, fait que cette position d'inconfort m'empêche de me regarder dessiner, d'être en cette espèce de moment un peu, je pense, un peu dangereux, où les choses coulent, quoi. Alors, pendant longtemps, moi, j'ai cru que... Et je désespère pas, je me dis peut-être qu'un jour ça coulera, mais en même temps, je pense que c'est bien que ça soit un peu difficile.
Ouais. Une autre question ? Non.
Il y a une demoiselle qui a...
Ouais.
J'ai souvent entendu dire que faire un travail artistique, ce n'était pas faire une thérapie. Donc, que ce soit vrai ou pas, que ce soit votre volonté ou pas, C'est comme une sorte de non-dit de la part de beaucoup d'artistes dans un sens assez large. Et est-ce que vous croyez que justement on peut faire changer aussi les choses de ce point de vue-là ? Est-ce qu'on peut commencer à parler de psychanalyse et d'art en même temps, dans un même discours par rapport à une œuvre ? Ou est-ce qu'il faut laisser les choses séparées et que la psychanalyse reste quelque chose de secret, de personnel, de non-dit dans l'art ?
Vous voulez dire de travail artistique en tant que thérapie pour soi-même ou pour le lecteur ?
C'est forcément quelque chose pour soi, mais après le lecteur peut bien comprendre ce qu'il veut en fonction de sa culture, de la psychanalyse. Mais moi, ma question, elle se situe par rapport à un discours sur une œuvre.
Est-ce que c'est intéressant d'interpréter une œuvre par le biais de la psychanalyse, par exemple ?
Par exemple, oui. Et est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous tient éventuellement à cœur, même s'il ne s'agit pas de rentrer dans des détails, par exemple ?
Je pense que c'est pareil, c'est une question inconfortable, enfin, c'est une position inconfortable, parce que je pense que ce qui fait la force de l'art, c'est justement tout ce qui n'est pas expliqué et qui passe très directement d'un individu à un autre et qui fait que les choses se transforment non pas... se transforment dans l'expérience, en fait. Je crois que l'œuvre d'art fonctionne quand il y a une expérience de part et d'autre. Et c'est cette transformation qui peut s'opérer, ce qui se passe quand on a vu un film qui vous a bouleversé, que des jours après, on sent que les choses sont en train de bouger, et que parfois, on a une compréhension de pourquoi, etc., quelques jours après, ou il y a une élaboration qui peut se faire et qui peut avoir des atours psychanalytiques. Je crois vraiment que c'est pas nécessaire, en fait. Je pense que le fait de décortiquer, d'expliquer, etc. Mais c'est pas inintéressant non plus, en fait. C'est ça le truc. C'est que je crois qu'il y a ces deux choses qui coexistent, qui cohabitent et qui sont. Ça peut être intéressant de vous. Moi, à un moment donné, c'était vraiment très important pour moi dans ma pratique de faire des parallèles entre ma thérapie et mon travail. Pour moi, il y a quelque chose qui est clair, c'est que mon travail n'est pas une vraie thérapie. C'est-à-dire que je crois que je pourrais, d'une certaine manière, si j'arrive le matin, je me mets à travailler, je suis très angoissé, par exemple. Le fait de dessiner mes angoisses, d'une manière ou d'une autre, me lave de ces angoisses. Et même pire, si je n'arrive pas à dessiner, je peux me retrouver très, très angoissé, parce que c'est comme si je n'avais pas réussi à sortir ce truc-là de moi. Donc, je me retrouve avec, finalement. Et l'idée, c'est de donner la forme la plus proche de moi et en même temps la mieux habillée. C'est aussi toujours cette ambivalence qui est entre décortiquer les choses et en même temps continuer de les habiller. Mais je pourrais continuer à l'infini comme ça, je pense que je serais toujours aussi angoissé. La psychanalyse, le travail psychanalytique amène à vivre ces angoisses différemment et finalement à être un peu moins angoissé, enfin passer de vraiment de quelque chose de névrotique et de maladif, invivable au quotidien, à des angoisses qui sont plus dynamiques, etc. Donc pour moi c'est vraiment deux choses très différentes et je pense pas que le dessin soit en soi une thérapie. Moi je le vois pas du tout comme ça et les deux vont de pair et comme je disais tout à l'heure, le psychanalyse m'a davantage libéré pour m'exprimer en dessin. Et il y a des connexions, des rebonds qui se font ensuite. Ce que je vis dans l'épreuve du dessin m'aide dans ma thérapie, etc. Maintenant, je ne sais pas si j'ai complètement saisi toute la question, mais...
Tu y as répondu, en tout cas. Merci.
D'accord, ok.
S'il y a peut-être une dernière question, sinon... une toute dernière question... Sinon, le mot de la fin.
C'est moi qui dois dire le mot de la fin. Je déteste terminer les trucs, ça m'angoisse.
Ben alors,
un petit dessin pour finir, moi, je dirais.
Un petit dessin rapide. Je vais faire plaisir à Benoît.
Une falaise, c'est ça ? on t'appelle. Hein. Ah bon. Il n'y aura pas d'air. D'accord.
Pas d'ailes et pas de bras.
Merci. Merci à vous. Merci à Benoît.